ne comprends rien.
Je dois tout vous avouer, monsieur Septim. Je t'avoue, j'en pouvais plus.
CO2, mon amour.
Vous n'avez pas pensé aux ennuis que vous alliez me causer, monsieur le président.
Denis Chessot.
J'avais besoin d'espace, d'air pur, de liberté, de pêche à la ligne, du chant des oiseaux. J'ai découvert la nature, monsieur Septim. Et la France. C'est beau, la France.
Sur France Inter.
Oui, je sais, la France, elle est très jolie. Mais vraiment, monsieur le président, c'est pas sérieux. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut.
Eh ben, nous voulons une émission qui relie les hommes à la nature. Et puis, c'est tout. CO2, mon amour, la nature qui chuchote à vos oreilles. Bonjour à tous. Nicolas Delmas vous accompagne à la technique. Marion Philippe a préparé cette émission. Et c'est Jérôme Boulet qui la réalise. La randonnée à vélo ou à pied permet de découvrir, vous le savez, des paysages, des bêtes, des humains, des lieux, le vent, les odeurs, et vous installe dans le temps réel de la vie. Le serpent d'ailleurs de bitume moucheté de Boc de Châtaigne vous incite au présent immédiat, sinon dans une descente, eh ben vous sortez vite fait de la route. Bref, accueillir l'instant, être disponible aux choses. Alors on peut jouir de tout à 25 à l'heure, hein. On peut chercher le détail de la forme des tuiles, son matériau, l'inclinaison du toit qui raconte la pluviométrie, les épis de faîtage qui assurent l'étanchéité de la charpente, mais qui sont aussi de jolies pièces d'ornement. Ah, vous ne loupez jamais le rassemblement de pneus décoratifs qui appuie la bâche de l'ensilage à maïs de la ferme, ni le chien qui défend son territoire en galopant derrière, en vous aboyant en basque. Et si vous levez le cou, eh bien vous buvez le silence de la nappe emplumée de pigeons migrateurs dans le ciel. C'était jeudi, au col de l'Isarieta, près de la forêt de Saint-Pé-sur-Nivelle. Alors vous pouvez rajouter 7 écureuils, 13 rivières à votre herbier de paysage, le chant grondant de l'océan qui fait neiger les vagues, et une douzaine de buses. Alors attention, hein, la buse avec une queue arrondie pour ne pas la confondre avec le milan noir. Buses autour de la rune qui ont la gentillesse de ne pas vous confondre avec un campagnol. Bon, ce qui n'est pas très difficile parce que le campagnol a rarement une tenue ridicule quand il fait du vélo. Et puis à vélo, le regard est régulièrement attiré par les enjoliveurs. Oui, enjolivons. Plus jolie et plus belle la vie grâce aux enjoliveurs. L'enjoliveur de voiture, vous savez, est facétieux et pas toujours solidaire de sa moitié. Souvent, il saute de joie, il s'émancipe, il divorce de sa roue pour vivre sa vie ailleurs. Et cet ailleurs, c'est le bas-côté, le caniveau, la lisière du champ. Et là, même traitement égalitaire devant le droit à l'essaimage d'enjoliveurs, route nationale, départementale, bucolique, forestière, toutes y ont droit. Et ils fleurissent hein, par milliers du côté des ronds-points, des talus qu'on les croirait offerts comme autant d'installations plasticiennes par le fameux 1% culturel chargé de rehausser le niveau artistique du citoyen de base en route pour le centre commercial. Alors ces gracieux chapeaux de champignons sont venus renforcer de leur corolle argentée les éclosions spontanées de canettes de bouteilles qui ne doivent rien ni à Jeff Koons ni aux gentils cristaux. Alors oui, à Caen, un musée de l'enjoliveur de bagnole, ode à la nature. Mais question, pourquoi ne retrouve-t-on jamais le modèle de la roue avant-gauche, celui qui nous manque ? Avant de partir dans la Creuse et de découvrir cette rivière la Brézentine, notre mot de l'environnement avec sa définition, avec le philosophe Dominique Bourg. Bonjour Dominique.
Bonjour Denis Chessou.
Nous allons parler écologie. Allez, c'est notre mot parce que c'est d'abord une science d'ailleurs relativement ancienne puisqu'elle a été définie en 1866 par le savant allemand Ernst Haeckel. Alors écologie, c'est la science qui étudie les relations que les espèces nouent entre elles et avec le milieu. Et en fait, la définition, Dominique, elle n'a pas perdu de sa pertinence.
Non, absolument pas. L'écologie est une tradition de pensée plus englobante avant d'être une science. Apparu légèrement avant, c'est un courant de pensée né de la modernité industrielle naissante pour la contester, comme existent le socialisme, le libéralisme, oui, le conservatisme, le féminisme, etc.
Alors, ce qui la caractérise ?
De traits. La critique de l'anthropocentrisme et plus généralement la volonté de refondre nos relations à la nature. Deuxièmement, l'idée selon laquelle nos techniques ne sauraient à elles seules surmonter les problèmes qu'elles engendrent.
Alors, elle englobe l'écologie scientifique et plus largement les sciences.
Oui. Alors que les premières manifestations de la pensée écologique s'appuient sur des récits de voyage, des observations empiriques, des premières dégradations spectaculaires de la nature, comme la brûlure des paysages, des premières soudières, ou la déforestation massive des colons d'Amérique du Nord, très vite, ce sont de multiples sciences, dont l'écologie, qui nourriront les réflexions constitutives de la pensée écologique.
On peut se dire que les choses peuvent paraître contradictoires quand même.
Oui, car d'un côté, l'écologie renvoie à une science, ouais. Et de l'autre, elle consiste en un scepticisme à l'égard du pouvoir des techniques, lesquelles découlent des sciences.
Parce que si on prend des exemples que l'on connaît, par exemple, on peut se dire que les écologistes sont un peu schizophrènes. D'un côté, ils vont s'appuyer sur les sciences, on va dire, quand ça les arrange en matière de climat, et puis ils vont rejeter dans d'autres circonstances la même science quand il s'agit d'OGM.
En réalité, il n'y a aucune contradiction. Le mot science n'ayant pas du tout le même sens lorsqu'on parle de climat, ouais. Et d'OGM.
Alors qu'est-ce qu'on entend par science?
La science est définie par la production méthodique et rigoureuse d'énoncés les plus vraisemblables possibles, Denis. Ce que font les sciences du climat, les OGM, ne sont pas des énoncés, mais des objets.
Ah.
Un objet n'est ni vrai, ni faux. Il relève d'autres modalités de jugement. Il est lourd, léger, puant, inoffensif, etc.
Donc vous nous dites que les OGM sont des objets produits par des techniques qui s'appuient sur des connaissances scientifiques.
Oui, mais comme par exemple une mine antipersonnelle ou un avion. Donc aucune schizophrénie chez les écolos. En revanche, dès qu'on touche les questions globales d'environnement, comme le climat, oui. Ou l'état planétaire du vivant, nos sens nous font défaut. Nous ne percevons ni les ppm dans l'atmosphère, ni une température moyenne, ni un taux d'érosion de la biodiversité. Dès lors, sur ce plan fondamental pour notre survie, sur Terre et celle des espèces qui nous accompagnent, les connaissances scientifiques nous servent de prothèses sensorielles et nous permettent de comprendre les effets de nos propres actions.
Bon, en tout cas, elles sont essentielles à la pensée écologique.
Aussi indispensables qu'elles soient, elles ne nous suffisent pas à fonder une civilisation. C'est pourquoi on ne peut que considérer avec la plus grande attention l'intérêt manifesté récemment et par le GIEC et par l'IPBES pour les peuples premiers, leurs connaissances et leurs pratiques.
Alors l'IPBES, on va dire que c'est un peu le GIEC de la biodiversité. Dominique Bourg, un petit mot quand même sur la permaculture, que c'est très intéressant, ça vient d'une civilisation quand même très ancienne, ça part d'Australie là.
Ah ben la permaculture, ça s'invente en tenant compte d'un côté des pratiques agricoles des peuples premiers, des aborigènes, ouais. Et de l'écologie, la science des écosystèmes, du côté complémentaire des plantes.
Et ça va être l'histoire d'une rivière en résistance dans quelques instants qui s'appelle la Brézantine, très intéressante dans le département de la Creuse, après qui The Black Keys. We used to play pretend. You and me thought it might never end. Now I wonder where you've been. I sit around and miss you. Fireflies would glow, turning all the darkness to show. Oh, what made us let. The Black Keys, deux Américains qui viennent de l'Ohio sur France Inter et dans C'est où de mon amour. Et là où je vous emmène, à mon avis, ça va leur faire un changement aux gars.
Alors la Brézantine, en fait, j'ai eu petit problème avec la brésantine quand j'étais enfant. C'est-à-dire que je suis tombé dedans plusieurs fois.
Vu la pollution de la rivière, on a dit qu'il faut faire quelque chose, quoi. On est parti comme ça, sur un coup de tête, mais on ne pouvait plus supporter parce qu'on a eu cette pollution. On en a eu d'autres avant. Et disons que nos brésantines, on l'aimait. On l'aimait et ça faisait mal. Quand on l'a connue étant jeune et puis qu'on l'a connue étant plus vieux, vraiment, c'était quelque chose de vexant. C'était terrible.
C'est la rivière du village, ça correspond à beaucoup de choses.
On a vu petit à petit que les choses allaient tourner. Et effectivement, ça tournait dans le bon sens.
Jean et Émilienne, nous sommes dans la Creuse. Alors les impressionnistes de Creuset ne sont jamais loin, mais ils ne sont pas remontés jusque-là. Nous sommes proches de Dun-le-Palestel, à Sagna, 200 habitants dont 150 ont adhéré à Brésantine Environnement, donc c'est pas rien du tout. Et c'est donc l'histoire d'un combat écologique réussi que raconte Olivier Noyas, qui est journaliste environnemental et figure de l'hebdomadaire La Vie, dans son livre aux éditions du Rouergue, Une rivière en résistance. Alors c'est l'histoire en fait d'une usine d'équarrissage bien pourri à l'époque, qui tuait la vie des habitants, de l'air, de la rivière. Cette jolie rivière aujourd'hui qui se jette dans la Sédelle, puis la Creuse, puis le grand voyage de l'eau vers l'Atlantique. Élisée Reclus, donc géographe et philosophe, aimerait sûrement cette histoire de rivière tournée au mois de juillet.
Respirez aujourd'hui, c'est l'air de la Creuse qui vous attend. Bonjour Olivier Noyas.
Bonjour Denis.
Alors Olivier, on est chez vous, dans ce département de la Creuse. Et alors on est sur ce qu'on appelle la marche. Alors cette marche, en fait, c'est cette césure entre la Languedoc et la Languedoil. Et puis c'est peut-être aussi la première marche sur le Massif Central.
Oui, bah là, juste en face de nous, on a le Bois de Chabanne, qui est le premier contrefort du Massif Central, qui culmine à peu près à 500 mètres d'altitude. Et c'est vrai que c'est le premier obstacle géographique qu'on trouve en venant de la capitale.
Et donc, vous avez écrit donc Une rivière en résistance aux éditions du Rouergue. Donc, c'est toute l'histoire de cette brésantine. Alors, on s'est dit, on va peut-être faire un reportage un jour sur l'Orénoque, sur l'Amazone, sur le Gange. Nous, on est très modestes, parce qu'on va parler de la brésantine, 24 km, et on est aux sources de la brésantine.
Oui, tout à fait, oui, 24 km, mais quel 24 km hein. Et donc là, effectivement, on se trouve entre donc le Bois de Chabanne et ce qu'on appelle le massif de Châtelard, qui est un peu un ensemble boisé, où il y a effectivement des chênes, des châtaigniers, des bouleaux, qui est assez préservé. Et là où, finalement, il y a une multitude de sources, parce que il n'y a pas une seule source de la brésantine, il y a des sources de la brésantine, comme ça arrive souvent pour les rivières.
On a mis quand même un petit peu nos bottes. Là, je vais me tourner vers vous, Laurent Dubois. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes le responsable ou départemental de ce qu'on appelait autrefois donc l'Office national des eaux et des milieux aquatiques. Aujourd'hui, c'est l'Agence française pour la biodiversité. Et alors, c'est vrai que quand on dit la source, c'est comme la Loire. Enfin, il y en a plusieurs.
Oui, tout à fait. C'est toujours compliqué de trouver où se trouve la vraie, l'authentique et la réelle. Hein. Ouais. Voilà. Donc ici, sur la Brésantine, il y a plusieurs zones de sources. Hein. Alors on peut considérer que c'est ici la Brésantine qui va naître vraiment en tête du massif, un petit peu plus sur la droite.
Et vraiment, cette brésantine, elle revient de très très loin. C'est-à-dire que si on devait mettre ça sur des zones rouges, c'était au-delà de ce qu'on imaginait.
Alors, en aval de l'usine, c'était assez catastrophique. Hein. C'était un point noir. Hein. Et d'ailleurs, ça serait même pas la couleur rouge qu'on pourrait employer, mais vraiment la couleur noire, hein. C'est-à-dire hors catégorie, quoi. Enfin, hors classe au niveau de la qualité de l'eau. Quoi. C'était même plus les poissons qui avaient disparu, c'était même les macros invertébrés. Hein. Tout ce qui vit dans l'eau, les insectes, les libellules, les larves de libellules, des éphémères, hein. Et ils ont tous leur rôle. Et en fin de compte, au lieu d'en avoir une cinquantaine de différentes sortes, il n'y en avait plus qu'une qui résistait.
Et aujourd'hui, la truite Fario est revenue. Et ça, c'est un excellent indicateur. Ce qui veut dire qu'il y a eu un côté quand même réversible.
Alors, effectivement, c'est un indicateur. C'est vraiment une espèce qui nous permet un petit peu de voir l'amélioration de l'eau.
Si on veut donner une définition d'une bonne continuité écologique d'une rivière, qu'est-ce que c'est ?
C'est le transport... sédimentaire, hein, c'est-à-dire que naturellement, il n'y a pas d'interruption du flux des sédiments. Hein, l'eau n'est qu'un travailleur.
Un vecteur,
travaille, roule les cailloux, etc.
Conséquences sur la flore et sur les poissons.
Alors, et sur les poissons, parce que qui dit interruption du sédiment dit interruption des zones frayères, des graviers pour les truites. Donc là, il y a un petit peu un cercle non vertueux, je dirais, et il faut essayer de le résoudre.
Et alors, si évidemment l'agriculture se met à drainer un peu trop, à curer trop ses petits chevelus, bah vous modifiez la morphologie hein, des habitats avec la qualité de la ressource à la clé. Et là, on va faire quoi? On va rechercher la source. 450 mètres, chêne pédonculé, châtaignier, on y va, c'est une quête. Une quête de quoi? De votre enfance, de l'origine de la vie? Allez savoir.
Justement, on cherchait avec Laurent justement où étaient ces fameuses sources. On avait donc une carte IGN, qui sont quand même des cartes remarquables, où vraiment on voit la France, ces fameux chemins noirs dont parle aussi Sylvain Tesson, enfin vraiment cette géographie humaine et physique, enfin sensorielle aussi. Donc là, bah, on était comme une matinée comme cela, il y avait un très beau temps. Et puis on avait bien vu qu'il y avait un trait noir, là comme ça, sur notre gauche. Et on cherchait un petit peu au milieu des fougères, des bouleaux, et c'est un petit peu plus loin, là, sous le châtaignier, là, qu'on a vu ce qui ressemblait à un vieux chemin, plus ou moins entretenu, et qu'on a pu pénétrer un petit peu ce taillis.
Oui, le chemin est peut-être par là. Allez, hop. Les Indiana Jones de la Brésantine. On vous le fait sur France Inter, hein?
Voilà, c'est assez sec en ce moment. Ça va faire un petit écoulement d'eau. Le lit n'est pas encore bien marqué. On est vraiment à la zone de naissance du cours d'eau hein, qui commence à travailler, à faire son lit. Hein, et tout doucement, puis un tout petit peu plus en bas, ça y est, le lit est marqué et c'est vraiment le cours d'eau. Donc on peut supposer que c'est une des sources.
Là, on a un tout petit, on va dire, premier jaillissement. Il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est ça qui donne naissance à une belle rivière.
Ouais. Wow. Oui, les oiseaux, on est chez vous.
Là, ils sont
ah bah, puis on est chez eux, hein, c'est pas l'inverse. Donc. Autre coin avec vous, Olivier Noyas, de votre Brésantine, un petit peu plus en aval. Et là, évidemment, les souvenirs d'enfance galopent.
Oui, là, on est sur la commune de Colandane, tout près des anciens moulins. Et il y a la rivière là qui serpente un peu au milieu des bruyères. Et c'est vraiment là où on faisait toutes nos parties de pêche familiales. C'est-à-dire qu'on partait le matin de bonne heure. On arrivait, on posait la voiture à l'ombre et on descendait avec le panier de pique-nique. On mettait les bonnes bouteilles au frais dans la rivière. Et puis chacun pêchait selon son humeur. Ça pouvait être l'écrevisse, la truite, la friture. Et on passait une journée complète et on ne revenait que le soir, un peu fourbu, ivre de bonheur. J'allais dire ivre de fatigue, mais non, c'était ivre de bonheur parce que c'est vraiment des magnifiques journées où on voit personne, où on n'entend que le bruit de l'eau, le chant des oiseaux, le doux murmure de la rivière. Enfin, c'est vraiment des très beaux souvenirs.
Et en fait, ce combat, il naît pour tout le monde de cela, c'est-à-dire d'une émotion, de l'enfance, d'un affectif. Et c'est tout ça, en fait, qui est remonté et qui s'est cristallisé autour de ce combat.
Oui, bien sûr. Je crois que c'est d'abord Brésantine environnement, c'est l'histoire de beaucoup d'attachement de gens du pays à leur rivière, à leur patrimoine. C'est comme ça qu'ils l'ont vécu, et pas du tout comme une lutte écologique. C'est vraiment, j'allais dire, c'est presque charnel. C'est-à-dire qu'ils ont tous quelque chose à raconter, une histoire, soit en tant que paysan, soit en tant que pêcheur, soit en tant que randonneur, soit en tant que retraité, soit en tant que creusois, c'est leur rivière. Et ces multiples bouts de rivière qui ont fait bah, qu'on a réussi à bâtir un rapport de force, parce que ça a quand même été ça, et face à ce qui paraissait irrémédiable, bah, à inverser la tendance et à faire de ce combat un combat exemplaire, qui est bien au-delà de la Brésantine.
Comment, en fait, cet abcès a été crevé? Parce que on rappelle les faits, donc une usine d'écarissage On est en 1961, qui évidemment est complètement hors norme. C'est-à-dire que vous avez des bêtes qui viennent de partout, qui viennent même du Jura. Donc vous avez de la carcasse. Après, on récupère les peaux d'un côté, on fabrique de la farine animale de l'autre. Et il a quand même fallu attendre quoi, une trentaine d'années pour que
oui,
ça commence à bouger.
Ça paraît assez incroyable, effectivement, qu'on ait supporté pendant tant d'années sans rien dire. C'est pas qu'on n'a rien dit, mais on ne s'est pas donné les moyens de se faire entendre. Il y avait une forme de résignation. Il faut dire aussi qu'il y avait quand même un laxisme généralisé de beaucoup d'élus et surtout des pouvoirs publics dont c'est quand même l'écarissage, il faut s'entendre. L'écarissage est utile. L'écarissage est une activité utile. Si on ne ramassait pas les cadavres d'animaux, ça poserait d'autres problèmes. Mais pas n'importe quel écarissage et surtout pas un écarissage fait n'importe comment. Le problème, si vous voulez, c'est que l'écarissage est une activité de service public, mais qui est fait par des entreprises privées en situation de monopole. Si bien que leur loi, c'est pas la loi de l'hygiène publique, etc., mais c'est quand même quelque part de dégager des profits, d'où cette idée un peu folle de commercialiser les farines animales, qui étaient un produit de l'écarissage, et de les vendre à des ruminants, à des vaches, d'où la crise de la vache folle. Donc c'est un peu, voilà, cette histoire folle, et c'est aussi écrite ici, dans ce bout de territoire en Creuse.
Alors laissons couler à présent, si vous le permettez, donc les notes et les paroles de Bertrand Belin et Barbara Carlotti, et nous retournerons sur les bords de la Brézentine.
Planche,
cou,
couteau,
bijoux,
bouteille,
sous,
bibelot de Lourdes,
marée haute,
arithmétique,
Noël,
Père Noël,
tabac,
obus,
un passant qui pue,
la nuit, cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui, pour qu'il pleuve sur lui. Notre-Dame en feu qui rougeoie dans la nuit la vache.
Le poing d'un mec sourd écrasé sur une bouche.
Carton,
citron,
étron,
pinson,
coton,
dindon,
houlon,
gazon,
avion,
majesté,
vitesse du son. Cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui,
pour qu'il pleuve sur lui.
Tout s'efface lentement, tout lentement, tout finit comme un os, blanc comme un os. Le temps est si doux.
Toi,
bruit,
Barbara,
la foutue manie qu'il a de traîner son passé d'art,
Kadhafi campant dans les jardins de l'Elysée, moi,
dégustant mon sorbet cassis devant la télé,
nu,
clope,
rideau,
paradis,
cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui,
s'accueillait des mains.
Le sexe pointu du chien des voisins qui nous faisait machin.
L'arrivée magique des kiwis.
Le mariage inattendu de Romolade Pulski.
Avec Nijinsky.
Le journal local.
Le journal familial.
Le savon doux, tout.
Tes commentaires et l'art sur la terre qui tourne.
Entre taf et tout. Passe lentement, tout lentement. Donne-moi ta main, allons descendre, sentir ce jasmin en bas des marches. Le temps est si doux. Lentement, tout lentement, tout finit comme un os, blanc comme un os.
Jolie chanson qui méandre lentement.
CO2, mon amour.
Et la rivière, c'est de l'autre côté, hein.
Avec Denis Chesson, sur France Inter.
Retournons au bord d'une de ces rivières, 125 000 cours d'eau en France, hein, pas loin de 430 000 km de linéaire, comme on dit. Donc c'est une richesse inestimable, hélas quand même gentiment négligée et polluée. Alors c'est donc l'histoire dans cette Creuse de gens qui ne sont pas du tout prédestinés à mener un combat, mais qui ont fait le lien entre santé, environnement, qualité des eaux en amont et donc qualité des eaux en aval. Tout se tient en écologie. Toujours champêtre, mais quand même un petit peu moins Olivier Noyas, parce que là nous sommes devant l'usine d'écarissage, la fameuse usine en question qui a pollué donc cette brésantine. Petit fumet dans l'air, moyen, hein, c'est une espèce de numéro 5 de chez Carcasse, et ça peut être pire.
Bah, les choses ont quand même beaucoup changé. Là, on est devant une usine, ou plus exactement un centre de collecte du 21e siècle, alors qu'avant, on était devant une usine du 19e siècle. Et c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. Avant, il faut imaginer que justement, il y avait une grande cheminée qui rejetait plein d'odeurs, qui sentait dans un rayon de 5 km à la ronde, qui nous empêchait de dormir, qui nous obligeait à fermer les fenêtres, à relaver notre linge. Et puis, il y avait ce tas de farine animale qui était entreposé juste devant l'usine, à la merci de tous les rongeurs, etc., avec tous les risques sanitaires et bien sûr tous les effluents qui allaient dans la brésantine. Aujourd'hui, ce qu'on voit en face de nous, certes, il y a cette petite odeur, mais ce ne sera jamais une usine de roses ou de tulipes. Bon, ça fait partie de l'activité de l'écarissage. Elle est aux normes. Elle est aux normes à la fois pour l'activité, pour les employés, c'est quand même très important. Ils ont beaucoup gagné en conditions de travail. Il y a des vestiaires de ce nom, il y a des douches, il y a des sanitaires, il y a vraiment des protections aussi, toutes choses qu'il n'y avait pas. Et pour nous, les riverains aussi. Donc cette modernisation, cette mise aux normes, elle a profité à tout le monde.
Et donc c'était vraiment la résultante de tout le travail que vous avez effectué, vous, donc petite association au départ, c'est ça?
Oui, oui, bah c'est l'éternelle histoire du pot de terre contre le pot de fer. Hein. Donc nous, on était une petite association locale et en face de nous, on avait un grand groupe multinational allemand. Mais ce qu'il faut voir, c'est le résultat.
Qui faisait du chantage à l'emploi.
Oui, classiquement, bah, toutes les affaires d'environnement, c'est malheureusement du chantage à l'emploi, au détriment d'ailleurs de la santé des salariés eux-mêmes, parce que j'insiste vraiment sur ce point. Aujourd'hui, on a un comité de suivi qui tous les ans se réunit pour voir comment l'usine fonctionne. Et bien sûr, il y a nous, il y a les associations d'environnement, il y a les pouvoirs publics, mais il y a aussi les représentants du comité d'hygiène et de sécurité qui peuvent dire là les points à améliorer.
Toujours avec vous, Olivier. Alors là, présentez-nous, on est sur un pont qui a ce nom délicieux.
C'est le pont de Bijoux, le bien nommé. Magnifique.
Et c'est là que tout a commencé.
Bah oui, c'était le 29 juillet 1995, je m'en souviens très bien, c'était en fin de journée. Et avec mon ami et voisin Jean, on a été alerté parce qu'on a vu beaucoup de pompiers arriver. Et ce qu'on a trouvé ici, des centaines et des centaines de poissons crevés. Et puis des pompiers en train de les ramasser. Et puis ce qu'il disait, c'était un peu bizarre. Il disait, oui, il a fait chaud, donc comme si c'était un peu le fatalisme. Le seul problème avec la chaleur, ok, il faisait chaud, mais c'est que les poissons étaient vivants en amont de l'usine. Et nous, on n'avait pas besoin d'analyse pour savoir d'où venait cette pollution. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, avec en plus un peu cette forme de mépris, quoi, de finalement de pas reconnaître les faits. Et c'est là où le maire de Sagna, qui était présent avec nous, nous a dit, faut pas se laisser faire, faut faire une association. Et c'est ce qu'on a décidé de faire, présenter l'environnement. Et c'est à partir de là que tout est redevenu possible.
Alors vous avez été quand même, entre guillemets, favorisé parce que en 96, là c'est le scandale de la vache folle. Et en fait, ça a été une bascule.
Oui, c'est vrai qu'en juillet 95, on ne parlait pas encore de la maladie de la vache folle. Mais un an après, on était en plein dedans. Et c'est que là où tout le monde a réalisé que ces pratiques-là étaient non seulement néfastes pour l'environnement, mais aussi en termes de santé publique. C'est-à-dire que vraiment, on se retrouvait au cœur d'un scandale sanitaire européen. Nous, une petite association locale d'environnement.
Alors ensuite, comment ça s'est passé? Ça s'est accéléré, quoi.
C'est-à-dire que, si vous voulez, les maires, les élus notamment, se sont rendus compte qu'il ne fallait pas compter sur les belles paroles de l'écarisseur qui disait qu'il allait se moderniser. Et donc, ensemble, nous avons porté plainte, avec l'appui aussi de la Confédération Paysanne, avec l'appui de Limousin Nature Environnement, contre X. Et c'est ça qui a permis d'installer un rapport de force. C'est comme ça aussi qu'on a eu audience jusqu'au ministère de l'Environnement à Paris, où on est allé en délégation. C'est-à-dire que voilà, on a défendu notre territoire, notre terroir. Mais aujourd'hui, un petit peu avec le recul du temps, moi j'ai un regard on va dire, apaisé sur cette période-là. Je crois que c'était une étape nécessaire, mais nous, d'abord, de philosophie, on était vraiment non-violents. C'est au cœur même de notre combat, c'est-à-dire que nous, on voulait convaincre par des arguments, par la vérité des faits. Si on prend ça comme principe, on était sûr de gagner parce que, voilà, c'est bien des grands mots, mais la vérité était quand même de notre côté. Et ceux qui avaient beaucoup de choses à dissimuler, ben c'était les propriétaires de l'usine. Donc à partir du moment où on disait les choses, où les élus nous rejoignaient et où la presse faisait son travail, ben ça pouvait prendre du temps, mais je crois que l'issue ne pouvait être que positive.
Là, je vais rejoindre un autre homme, c'est Jean-Michel Bienvenue, parce que Jean-Michel est un homme qui connaît la nature de la Creuse, de ce département et de cette Brésantine, on va dire par cœur. Bonjour à vous.
Bonjour.
D'ailleurs, Jean-Michel, ornithologue, et face à cette Brésantine, on est dans ce qu'on appelle aussi un corridor biologique. Racontez-nous tout ce qui se passe là d'un point de vue naturaliste.
Mais tout à fait, vous avez vu, en arrivant, vous avez entendu un sifflement. On aurait pu croire que c'était un berger qui sifflait son chien. Mais au contraire, c'est le loriot d'Europe. Et ce loriot, s'il est là, eh bien, voyez, ces grands aulnes, eh bien, il va donc assurer sa reproduction dans ce bosquet d'aulnes. Et si vous venez en hiver, eh bien, également en hiver, vous aurez là, par centaines, des tarins des aulnes qui, eux, auront fait une migration d'altitude, seront descendus de leur montagne pour venir déguster les graines d'aulnes qui se situent le long de la Brésantine. Rien que ces deux espèces nous permettent d'identifier à coup sûr la qualité intrinsèque ici, sur ce pont et ce petit bosquet que l'on a devant nous. Donc, le corridor, eh bien, sous l'égide de Limousin Nature Environnement et à l'époque de la Société Ornithologique du Limousin, on s'est dit que mener une étude le long des linéaires de la Brésantine, ça nous permettrait d'en révéler toute la richesse. Parce que quand on veut protéger le patrimoine, et j'emploie à dessein le terme de patrimoine, il faut en connaître la valeur. Et l'œil d'expert, évidemment, est censé donc identifier la belle rivière, en quelque sorte. Et on a pu identifier tout le long de cette vallée 21 espèces d'oiseaux différents. Et en sachant que l'oiseau est un révélateur relativement facile de l'ensemble de la nature qui va s'y trouver.
Et ce qui est intéressant en vous écoutant, c'est que si on veut protéger donc des animaux, il faut d'abord protéger le milieu.
Eh bien, c'est très juste. Vous voyez la gravière qu'il y a en face, là-bas, vous voyez des trous, des traces. Eh bien, si on se déplaçait un tout petit peu, il y aurait fort à parier que ce soit les traces de la loutre d'Europe. Et on a identifié sur tout le linéaire, de sa source jusqu'à sa confluence avec l'autre rivière, la Sédelle, la loutre est présente sur ce territoire.
Ah d'accord, alors attendez, on va y aller voir. Là. On ne verra pas de martin pêcheur, parce que là, c'est pas exactement donc son lieu. En revanche, une bergeronnette des ruisseaux, là-bas.
Tout à fait, une bergeronnette des ruisseaux, colorée, jaune et gris, qui se balade de rocher en rocher, qui se pose sur les rochers. Voilà, elle vient de disparaître. Il lui faut de l'infrastructure rocheuse, et en l'occurrence, ce pont-là qui est devant nous.
Ça lui va très bien.
Ça lui va très très bien. Elle va poser son nid sur le rebord du pont. Et donc, je ne sais pas si on peut l'apercevoir d'ici. Peut-être là-bas sur le rebord en se baissant. Ouais. Donc voilà, la bergeronnette des ruisseaux est un indicateur également de la qualité donc de la rivière, parce qu'elle va se nourrir en fait des larves d'insectes juste éclos et qui sortent de l'eau.
Nous avons la berge, nous avons le champ qui est à peu près à 1,50 m. Au-dessus, nous avons un arbre mort et laissons vivre les arbres morts parce que vous avez dedans tout ce qu'il faut pour des insectes, aussi pour des oiseaux. Derrière, on a ces vaches limousines, ce qui veut dire que l'on a de la bouse. Donc on a un écosystème qui est très intéressant.
On a une mosaïque de milieux très intéressante. L'arbre mort, eh bien, est source de vie avec les insectes décomposeurs. Les bovins sont là, le système, la prairie est un milieu en soi. Vous parlez des bouses, évidemment, les bousiers vont transformer les bouses et ces bousiers vont être la proie d'insectes. Il y a un couple de pigrièches écorcheurs un petit peu plus loin qui est grande consommatrice, cette pigrièche de bousiers. Et donc, vous voyez, on a l'impression que tout est lié, tout est interconnecté en fait et cette mosaïque est absolument essentielle.
Olivier, aujourd'hui, quand même, les normes ont changé. C'est-à-dire que, est-ce qu'une pollution comme cela pourrait encore arriver ?
On peut espérer que non. C'est vrai que la prise de conscience environnementale est bien plus forte aujourd'hui qu'elle l'était à la fin des années 90. Moi, ce que je voudrais, c'est que l'exemple de la Brésantine serve pour toutes ces rivières, c'est-à-dire de montrer que même dans une situation qu'on dit récupérable, on peut y arriver.
Alors, Brésantine Environnement continue. Aujourd'hui, vous n'avez pas du tout dissous cette association, parce que, d'accord, le point noir écarissage, on va dire, en gros, ça c'est fait. Mais il y a tout le reste, quoi.
Oui, c'est vrai qu'on... Souvent, les associations, c'est des combats contre. Nous, on a essayé, justement, d'aller au-delà de ça et de faire un combat pour. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup mobilisé pour appuyer le contrat de rivière. À notre petit niveau, on a créé aussi un chemin de randonnée pour faire aimer, écouter, sentir. Parce que je crois que la conscience environnementale, elle vient souvent d'un bonheur. Voilà, pas uniquement être dans la dénonciation, mais faire découvrir la beauté du monde. Vous voyez, on essaye d'entraîner, à notre modeste échelle, tout un cercle vertueux pour que ce qu'on a connu n'arrive plus jamais.
Olivier Noyas, on revient sur cette rivière de l'enfance. La Brésantine, qu'est-ce qu'elle est pour vous ?
La Brésantine, c'est tout simplement des souvenirs d'enfance. Quand j'avais 6 ans, c'est avec mon grand-père, mon grand-oncle, venir avec une canne en bambou, et puis prendre comme ça 2-3 verrons, et puis surtout écouter, parce que au-delà de la pêche, il suffit de se taire 5 minutes et juste écouter. Et voilà, c'est des bruits, des souvenirs, des odeurs d'enfance, et je crois finalement qu'elles ont eu beaucoup de plus d'importance que je ne pensais. Finalement, elles ont un peu, oui, je crois, irrigué ma vie de père de famille, ma vie de citoyen, ma vie de journaliste. Et puis quelque part, moi c'est ce que je dis dans le livre, il me plaît d'imaginer que dans l'immense océan Atlantique, il y a comme ça quelques gouttes de la Brésantine.
Pourquoi on n'accepte plus un jour ce qu'on a supporté pendant 30 ans ? Eh bien, réponse dans cet excellent livre, hein, Une rivière en résistance, La Brésantine, aux éditions du Rouergue, signé Olivier Noyas. Je tiens à préciser aussi que l'Agence de l'eau Loire-Bretagne soutient la reconquête de cette Brésantine. Et ce reportage est réalisé par Jérôme Boulet et mixé par Guillaume Roux.
CO2, mon amour.
Je suis ravie que nous ayons pu traverser cette rivière de crocodile. Quelle chance tout de même que vous sachiez construire les pédalos. Je vous ai dit que j'étais désolée pour la tête de canard. Mais bon, persiste à croire que ça nous aurait pris beaucoup plus de temps.
Ça ne prenait pas beaucoup plus de temps.
Denis Chessou.
Ce qui est difficile, c'est la partie pédalo, c'est pas la partie canard. La partie canard, c'est un bec, un col vert. Et puis bon, on n'en parle plus.
Sur France Inter.
Mais bien sûr, et une petite citation de fin, dite par Jacques Bonafé.
Que l'avenir ne soit plus ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Henri Bergson.
Merci à Nicolas Delmas, à Marion Philippe avec qui nous avons préparé cette émission, à Jérôme Boulet qui l'a réalisée, Anne Gouzon nourrit les sites. Et la semaine prochaine, je vous emmènerai à la découverte du 11e nouveau parc national de forêt. Nous serons entre la Côte d'Or et la Haute-Marne. Je vous souhaite un excellent week-end et le Twitter simplement Denis Chessou.